La première, restons curieux. Et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions.
Dans quelques jours, le Forum hindou de Belgique, c'est-à-dire la coupole qui fédère chez nous la grande mouvance qu'est l'hindouisme, déposera auprès du ministère belge de la Justice une demande en bonne et due forme de reconnaissance officielle. Alors bien entendu, ce n'est encore que le tout début d'une longue et même incertaine procédure, mais en tout cas cette initiative relance tout le débat sur la place des cultes et des philosophies non confessionnelles. Mais dans le fond, on connaît très mal les hindous de Belgique. Combien sont-ils? Qui sont-ils? Pourquoi veulent-ils être à leur tour reconnus officiellement? Ce sont les questions que nous allons aborder dans cette nouvelle édition de « Et Dieu dans tout ça », juste après notre petit coup d'œil traditionnel sur l'actualité de la semaine avec Yasmine Boudaka.
« Et Dieu dans tout ça », l'actualité des philosophies et des religions.
Il s'est envolé vers d'autres cieux, en l'occurrence pas très loin, juste à quelques dizaines de kilomètres du Vatican. Ce jeudi, Benoît XVI a donc fait ses adieux au peuple catholique amassé sur la place Saint-Pierre à Rome, et il a aussi lancé son dernier tweet « Mettez le Christ au centre de vos vies, merci pour votre amour et pour votre soutien ». Fin de citation. Cet événement est unique dans l'histoire de l'Église, car les deux ou trois précédents recensés s'étaient déroulés dans des circonstances totalement différentes, et il ouvre donc une période de vacances du pouvoir que l'Église va s'efforcer d'écourter le plus rapidement possible. Le pape émérite, puisque ce sera désormais son titre officiel, a également promis une obéissance inconditionnelle à son successeur, qui aura la lourde tâche de présider aux destinées de la plus grande organisation religieuse du monde, l'Église catholique universelle, mais dont le travail le plus périlleux sera d'essayer de reprendre en main la curie romaine, décrite parfois comme une véritable pétaudière par les vaticanistes les mieux informés. Et à ce propos, la vacance du pouvoir soulève beaucoup de questions délicates, comme celle de savoir ce que la gendarmerie du Vatican va faire des données confidentielles qu'elle collecte depuis des mois sur les habitants de la cité du Vatican. C'est en effet en septembre 2012 que le secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone, a ordonné aux limiers du Vatican de surveiller étroitement les membres et le personnel de la curie. À l'époque, Monseigneur Bertone avait lui-même reçu des lettres de menace, et le scandale des fuites avait achevé définitivement de plomber l'ambiance. Depuis lors, les conversations téléphoniques et le courrier de tout le personnel, civil et religieux, sont étroitement surveillés, de même que leurs habitudes, relations et fréquentations. Une politique de surveillance systématique qui irrite et inquiète considérablement de nombreux prélats et qui risque de peser sur l'ambiance du conclave. En France, le Conseil constitutionnel a donc répondu négativement à une question prioritaire qui mettait en cause le statut des pasteurs en Alsace-Moselle. Pour rappel, il y a quelques semaines, une association de défense de la laïcité dénonçait le caractère, selon elle, anticonstitutionnel du système qui prévaut dans les départements de Moselle et du Rhin. Elle a donc été déboutée la semaine dernière, mais le Conseil constitutionnel a rappelé que le statut particulier dont jouissent les pasteurs, prêtres et rabbins dans cette région de France était transitoire, qu'il ne pouvait en aucun cas être étendu et que si une évolution devait avoir lieu un jour, ce ne pourrait être que vers une harmonisation avec le droit commun. Les milieux religieux reconnus se sont félicités de cette décision qui conforte la situation héritée de la Première Guerre mondiale. Mais d'autres ont par ailleurs observé que la position de la France restait très fragile, notamment si une organisation religieuse écartée du système venait à déposer plainte pour discrimination devant, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme. En Australie, les organisations religieuses qui gèrent des écoles, des hôpitaux ou des maisons de retraite pourraient perdre certains privilèges et exemptions dont elles bénéficient actuellement. C'est du moins ce que recommande une étude parlementaire menée par le Parti travailliste actuellement au pouvoir. Jusqu'ici, les organisations religieuses échappent en effet aux effets de certaines lois antidiscrimination, notamment pour ce qui concerne des questions sexuelles ou de genre. Les parlementaires travaillistes australiens estiment que cette situation est anormale et que toutes les organisations, même d'essence religieuse, qui offrent des services généraux aux citoyens, doivent respecter toutes les lois du pays, y compris celles qui éventuellement ne leur plaisent pas. De son côté, l'Église catholique d'Australie a répliqué que toucher à ce régime d'exemption serait porter atteinte à la liberté religieuse. Aux Pays-Bas, petit coup de théâtre cette semaine dans le monde politique. Un ancien membre du PVV, le parti de Geert Wilders, a annoncé s'être converti à l'islam. C'est bien sur Twitter qu'Arnoud Van Doorn, actuellement conseiller communal indépendant à La Haye, a annoncé cette conversion assez inattendue. Une fois passé la surprise et écarté le soupçon d'une blague ou d'une manipulation, les médias néerlandais ont confirmé la nouvelle, qui par ailleurs serait bien anodine si Arnoud Van Doorn ne venait pas précisément d'un parti qui a toujours soigneusement conservé l'islam et surtout l'islamisme dans son collimateur. Cependant, le parcours d'Arnoud Van Doorn n'est pas sans zone d'ombre, puisqu'il a été exclu du PVV en 2011 pour des malversations dans la gestion du budget de son parti. Enfin, tout le monde connaît le Harlem Shake, qui est le buzz du moment sur Internet. Le principe est très simple. Sur une musique du DJ américain Bower, il s'agit d'improviser quelques mouvements de danse sous l'œil d'une webcam quelconque et de poster le tout sur Internet. Bref, c'est à la portée du premier adolescent venu. Mais le plus intéressant, c'est que cet énième mouvement de mode est devenu le vecteur d'une contestation spontanée, notamment dans certains pays musulmans. C'est ainsi que mercredi à Tunis, des étudiants qui s'étaient réunis pour réaliser leur Harlem Shake ont été attaqués par des islamistes qui voulaient les en empêcher. Mais les étudiants de l'Institut des langues Bourguiba ne se sont pas laissés faire et les ont chassés au cri désormais célèbre de « Dégage ». Il est vrai que les responsables religieux et politiques islamistes ne voient pas ce genre de flash mob d'un bon œil. Ils pensent qu'il s'agit une fois de plus d'une épouvantable dépravation. Mais leur opinion n'empêche pas la contagion de gagner, car dès le lendemain, mais cette fois au Caire, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés devant le siège central des Frères musulmans pour improviser un Harlem Shake mémorable. Certains étaient venus déguisés en islamistes, d'autres en personnages de dessins animés. Quant aux seules paroles audibles du Harlem Shake, elles se résument à « con los terroristas », c'est-à-dire « avec les terroristes », une phrase énigmatique mais qui ne manque pas de sel dans ce genre de circonstances.
Et Dieu dans tout ça, le magazine de philosophie et des religions. Jean-Paul Eck.
Est-ce que l'hindouisme deviendra le 8e mouvement religieux ou philosophique à être reconnu officiellement par les autorités belges? Eh bien, c'est la question qui est désormais posée avec l'annonce du dépôt d'un dossier en bonne et due forme par le Forum hindou de Belgique auprès du ministère de la Justice. Alors, pourquoi les hindous de Belgique vont-ils faire cette démarche? Qu'en attendent-ils et qu'est-ce que la Belgique peut attendre d'eux en retour? Eh bien, ce sont les questions que nous allons nous poser maintenant dans notre débat du jour, et ce avec l'aide de trois très bons connaisseurs de l'hindouisme. Et tout d'abord, je salue Martin Gourvitch. Bonjour.
Bonjour.
Martin Gourvitch, secrétaire général du Forum hindou de Belgique et responsable de la communication du mouvement pour la conscience de Krishna, connu dans le grand public sous le nom Hare Krishna et dont le siège est situé près de Durbuy au château de Petite Somme. Et le mouvement Hare Krishna est bien sûr un des mouvements hindous les plus visibles en Belgique. Nous allons d'ailleurs revenir dans quelques instants sur cette question. Face à vous, Koenraad Elst, bonjour.
Bonjour.
Koenraad Elst, orientaliste flamand, spécialiste de l'hindouisme. Vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le nationalisme hindou et ce sera également un sujet sur lequel nous nous attarderons un tout petit peu. Et puis enfin, je salue Christophe Viel, bonjour.
Bonjour.
Christophe Viel, indologue. Car en effet, il existe en Belgique une communauté d'universitaires qui étudie tout ce qui se rapporte à l'Inde. Et vous êtes professeur de sanskrit à l'Université catholique de Louvain. Alors commençons avec vous, Martin Gourvitch. Où en êtes-vous concrètement dans vos démarches administratives?
Tout d'abord, merci beaucoup de nous donner la possibilité d'expliquer tous les efforts qu'on a fait depuis plusieurs années pour arriver à ce moment-là de présenter notre dossier au ministère de la Justice. Nous avons travaillé depuis la création du Forum hindou en 2007 pour avoir un dossier solide avec de bonnes argumentations, des lettres de soutien internationales, belges et beaucoup de textes supplémentaires, des recherches qu'on a fait aussi auprès des institutions qui existent en Belgique et rattachées à la spiritualité indienne. Et donc on est très content d'arriver à ce point-là où on va finalement donner ce dossier au ministère de la Justice et par la suite à beaucoup d'autres personnalités dans le monde politique, le Parlement.
Alors c'est une démarche évidemment qui va prendre du temps. Vos collègues, je dirais, les bouddhistes, bon, ça commence à prendre figure. Il y a déjà quelques petits financements, mais la reconnaissance n'est pas encore officiellement acquise de manière formelle. Voilà, ça va prendre du temps, mais quel intérêt il y a-t-il pour les hindous en Belgique de se faire reconnaître? Quel est le cheminement finalement par lequel vous êtes passé pour en arriver à cette conclusion-là?
Donc, je pense que la raison principale pour vouloir demander cette reconnaissance, c'est d'abord une reconnaissance morale. C'est-à-dire que la communauté hindoue en Belgique, qui est très diverse, très variée, on parle de 20 000 personnes, certaines d'origine asiatique, d'autres d'origine belge, avec des rattachements à différentes communautés, différentes organisations. Je pense que c'est un sentiment de vouloir être considéré des citoyens belges comme les autres convictions et philosophies en Belgique. Et donc, c'est une reconnaissance morale que nous cherchons pour pouvoir contribuer plus, d'une manière plus active et plus rassurante dans la société belge.
D'accord, merci Martin Gourvitch. Christophe Viel, je vous pose peut-être une première question. Quand vous avez entendu parler de cette démarche de reconnaissance, quelle a été votre réaction? Est-ce que ça vous paraît possible, alors même qu'une des caractéristiques de l'hindouisme, c'est d'être éclaté en des myriades véritablement de petits groupes, avec parfois des différences extrêmement grandes sur le plan de la conception philosophique, métaphysique, religieuse? Quelle a été votre première réaction?
La première fut un certain scepticisme, mais... À écouter Martin Gourvitch, on peut comprendre bien entendu que des gens se mettent ensemble pour une revendication de ce type. Et donc à ce moment-là, elle peut être acceptable aussi. Simplement, sur le plan, je dirais, plus objectif de qu'est-ce que l'hindouisme, la question peut se poser parce qu'effectivement, il est très difficile de trouver entre ces différents groupes que l'on qualifie d'hindous, mais attention, le mot hindou, c'est un concept forgé de l'étranger, de l'extérieur. Ce sont les gens de l'Inde. Hein, c'est étymologiquement, hindou, c'est ce qui est au-delà de l'Indus, hein, ou du Sindh, hein, de oui. La région du Sindh. Et donc, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, la religion elle-même ne s'est jamais présentée comme un ensemble homogène ou moins homogène, et que c'est petit à petit l'Occident qui a, en quelque sorte, construit l'hindouisme. D'ailleurs, il y a quelques centaines d'années, on parlait plutôt de la religion des Brahmes hein, ou des Brahmanes. Maintenant, il est vrai que dans cet ensemble hétéroclite, il y a au moins une communauté, je dirais, de rites et de croyances en des divinités et de croyances en l'efficacité des rites que l'on accomplit vis-à-vis de ces divinités. Il y a des fêtes communes. Mais donc, c'est peut-être ça la particularité de cet hindouisme, de ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est qu'il est essentiellement cultuel, rituel, avant d'être doctrinal.
Alors on va bien sûr essayer d'entrer un petit peu dans le détail. Je vais commencer d'abord par demander à Konrad Elst aussi son sentiment. Et dans le fond, effectivement, la question a été posée. Comment définir l'hindouisme? Est-ce que vous avez une idée, vous?
La reconnaissance de l'hindouisme politiquement est dans la tendance multiculturelle. Donc c'est très normal que ça se fait. Mais la difficulté sera après, quand l'hindouisme est reconnu, de, par exemple, concipier des livres scolaires qui sont satisfaisants pour tous les hindous. Parce que là, et donc l'expérience en Hollande et en Angleterre, où on a plus d'années d'expérience, le montre que quand même les hindous ne sont pas d'accord une fois qu'ils commencent à parler doctrine. Mais sur le plan pratique, oui, ça va encore. Hein. Mais une fois que les autorités, les forces à mettre ensemble un livre scolaire, par exemple, ça risque de devenir difficile.
Oui. Pour vous, Konrad Elst, quel est le fil conducteur qui relie toutes les différentes expressions de l'hindouisme? Et elles sont vraiment très, très nombreuses. Il y a quelque chose qui les fédère, qui les rassemble?
Maintenant, peut-être, mais bon, historiquement, c'est simplement l'Inde qui les relie. Donc, il y a des tendances très différentes, mais qui ont en commun qu'ils proviennent de l'Inde.
Alors, Martin Gourvitch, l'hindouisme, c'est une culture ou une religion, finalement?
Et c'est les deux, et encore spiritualité. Donc, il y a tous les aspects. Il y a l'aspect rituel, comme vient de dire Christophe Viel. Il y a l'aspect bien sûr philosophique, puisqu'il y a des philosophies très très profondes dans l'Inde, et aussi l'aspect culturel. On connaît bien la culture de l'Inde, tous les aspects culturels sont rattachés à cette spiritualité, donc c'est les trois, religion, culture et spiritualité.
Oui, alors on disait tout à l'heure, à l'instant, Christophe Viel nous disait que c'était d'abord plus des pratiques, hein, finalement des cultes, peut-être des rituels qu'on observe, hein, plutôt que vraiment un corpus philosophique très très bien encadré. Alors évidemment, nous en Occident, on a toujours l'exemple du christianisme, en particulier de l'Église catholique, où on voit qu'il y a une orthodoxie, c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut penser et d'autres qu'on ne peut pas penser. C'est encore plus grave si on les dit. Dans l'hindouisme, est-ce que on peut dire ce qu'on veut finalement, mais qu'est-ce qui est important alors?
Je pense qu'il y a beaucoup de manières de classifier l'hindouisme. La plus facile, c'est la manière dont les hindous font leur culte ou l'adoration qu'ils ont dans les temples, les différents temples. Donc ça, c'est l'aspect le plus visible. C'est peut-être l'aspect que nous allons insister en Belgique, être reconnu comme un culte. Mais bien sûr, il y a l'aspect philosophique aussi, puisqu'il y a des traditions philosophiques très très importantes. Et donc, on pourrait parler des doctrines, si on veut, pas d'une doctrine hindoue, mais des doctrines orthodoxes inspirées sur les Védas.
Oui, Christophe Viel.
Pour redire aussi que le problème est le personnel religieux, par exemple. Hein. Parce que là, de ce côté-là, le bouddhisme, c'est déjà un peu plus cernable, parce qu'il y a le moine, il y a un statut, hein, d'homme religieux. Dans ce qu'on appelle l'hindouisme, la difficulté, c'est que d'une part, sur place, on a le brahman qui existe partout, hein, et qui est toujours utilisé pour pratiquer, que ce soit par exemple les rituels domestiques ou les rites de passage, hein, les samskaras. Hein, donc ça, il est là comme le prêtre. Mais et la conscience de Krishna est un bon exemple. On a d'autres mouvements dans ce qu'on appelle l'hindouisme qui sont tout à fait en dehors de ce qu'on pourrait appeler alors le brahmanisme, hein, puisque justement il se passe complètement de l'homme de statut brahman pour exécuter ou pour pratiquer les cultes ou pour établir des doctrines. Donc c'est déjà ici aussi un problème, c'est quelles sont les personnalités qui vont représenter les hindous, hein, puisqu'il n'y a pas, vraiment de corps constitué, et encore moins hiérarchiquement, il n'y a pas de... on peut même pas parler d'église. Hein, au pluriel, il y a comme ça des lignées de gourous, des lignées de qui se rattachent à Shankara, par exemple. Là, ça, c'est plutôt orthodoxe. Ou bien d'autres lignées vont se rattacher à un maître spirituel, comme dans le cas de la conscience de Krishna. Mais quelle est la légitimité de chacune de ces lignées, puisqu'il n'y a aucune autorité supérieure qui est capable de dire oui ou là, ça, c'est on peut considérer que ce qu'ils disent est légitime, respectable. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très délicat dans la reconnaissance d'une religion.
Ouais. Martin Gourvitch, comment allez-vous résoudre ce gros problème?
Je pense qu'on va beaucoup s'adapter à la manière dont la religion, la spiritualité est pratiquée en Europe, en Belgique. Donc nous allons bien sûr avoir des formations pour des personnes qui veulent justement faire les rites, le culte dans les temples ou l'enseignement. Et donc je pense que dans l'hindouisme, on aura deux types de prêtres. Des prêtres qui font des activités rituelles et l'adoration dans les temples, et d'autres prêtres qui vont s'occuper plutôt de l'enseignement. Donc, ils vont être des conseillers auprès des personnes, et l'enseignement spirituel, philosophique.
Parce que justement, l'une des caractéristiques de l'organisation des cultes en Belgique, c'est que l'État belge ou les autorités belges veulent voir une seule tête. Elles ne veulent pas avoir 15 interlocuteurs. Elles veulent avoir... et c'est pour ça que les protestants, par exemple, ont été obligés de s'organiser de manière beaucoup plus formelle. Avec les musulmans, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais voilà, vous-même, vous allez être en mesure, les hindouistes, de vous rassembler, de faire taire vos différences, voire vos divergences?
Nous sommes très proches des autres communautés comme la communauté musulmane ou la communauté protestante où il y a beaucoup de dénominations et des communautés différentes. Une chose qu'on a notre avantage, c'est qu'on est une communauté pas trop grande, donc c'est beaucoup plus gérable. C'est-à-dire, c'est pas des centaines de milliers ou des millions de personnes qu'on doit, des communautés très différentes qu'on doit tout gérer. Donc c'est quand même beaucoup plus facile puisqu'on est une petite communauté. Mais donc, je pense qu'on a créé les forums hindous pour ça, pour pouvoir avoir une représentation, pas pour discuter des questions théologiques, philosophiques, peut-être des questions éthiques, des questions de société, mais on ne va pas rentrer trop dans les différences théologique.
D'accord. Konrad Elst, à votre connaissance, dans des pays comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, est-ce qu'on a déjà résolu ce genre de questions?
Ben, les hindous entre eux s'entendent assez, hein, c'est-à-dire pour des questions pratiques, ils travaillent ensemble. C'est seulement dans les questions doctrinales que quand même il y a des écoles différentes. Par exemple, dans le livre, on dit souvent que on peut être athée et quand même être hindou. Mais c'est de la gloire périmée, hein, parce que l'hindouisme contemporain est surtout théiste et dévotionnel. Et donc, la plupart des hindous vont, par exemple, définir le bouddhisme comme eux, ils sont athées et nous, on croit en Dieu. Donc, il y a quand même un dénominateur commun qui unit suffisamment les hindous.
Et ça tourne, ce dénominateur commun tourne autour de la culture indienne, alors liée à la géographie du sous-continent?
Historiquement, oui, mais évidemment, quand des générations naissent ici, ce lien devient de moins en moins.
Oui, et puis il y a d'autres pays aussi, le Népal qui a été longtemps le seul pays officiellement hindou. Il y a aussi les îles Maurice, un peu à Bali, un peu au Sri Lanka. Et d'ailleurs, actuellement, ça pose pas mal de problèmes. Et puis bien sûr, il y a une diaspora indienne et donc hindoue aux États-Unis, au Canada et évidemment en Europe occidentale. Est-ce que vous avez l'impression, je pose la question à la cantonade, que l'hindouisme, comme d'autres, est en train de muter aujourd'hui, est en train de changer véritablement de visage, mais peut-être aussi de structure, et peut-être que l'exemple de la Belgique en est un parfait. Christophe Viel.
Moi, je pense que l'hindouisme en Inde, ça c'est quand même d'abord le plus important, et se vit d'abord comme une tradition. Hein. Et donc là, justement, c'est une religion qui, dans sa diversité, s'adapte très bien à la modernité parce que, justement, elle est extrêmement traditionnelle. En ce sens que c'est une autre sphère. Le jeune ingénieur de famille brahmane, hein, qui, eh bien, il va simplement au temple avant d'aller travailler, mais c'est deux choses différentes. Mais le rituel qu'il fera au temple, le matin avant de partir ou le soir en revenant de son travail, il restera exactement le même que celui qu'il était il y a 100 ans. Donc, je veux dire, c'est une religion qui combine extrêmement bien la tradition avec la modernité parce que, justement, ce sont deux choses tout à fait séparées.
Et les interdits de caste, alors là, j'entrouvre une porte, évidemment, vers un tout autre débat. Ça ne pose pas trop de problèmes, Martin Gourvitch?
Je voulais revenir un petit peu sur la question précédente. C'est qu'au niveau international, je pense qu'il commence à avoir un hindouisme globalisé qui s'adapte aux structures occidentales, modernes. Donc, on voit comment les hindous sont de plus en plus organisés partout dans le monde. Bien sûr, en Inde, comme c'est vraiment la tradition millénaire et c'est très grand, ça garde des aspects beaucoup plus traditionnels. Mais en dehors de l'Inde, je pense qu'il y a un hindouisme qui devient de plus en plus organisé et aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, partout.
Oui, Christophe.
Mais c'est une forme de néo-hindouisme, d'une certaine façon aussi, parce qu'il est justement très différent de celui, souvent, de celui que l'on trouve en Inde même. Enfin, ça, c'est un avis plus personnel.
C'est un hindouisme qui s'adapte aux besoins des pays où elle est située. Par exemple, des pays comme l'Europe occidentale ou aux États-Unis, s'il n'y a pas de représentation, s'il n'y a pas de advocacy, vous n'existez pas, vous n'avez aucune existence. Donc c'est une nécessité dans des pays en dehors de l'Inde d'avoir une certaine représentation qui n'est pas doctrinale, qui n'est pas philosophique ou théologique, mais qui permet justement à ceux qui ont certaines choses en commun de pouvoir s'exprimer auprès des autorités, auprès des...
Alors, d'autres religions de par le monde ont des obligations très strictes au niveau de la nourriture, d'un certain nombre de comportements, nombre de pratiques religieuses, etc. L'hindouisme, j'y faisais allusion à l'instant, il y a aussi des interdits de caste, hein, on va entrer un petit peu dans le détail. Ça ne pose pas de problème pour l'entrée de l'hindouisme dans la modernité, Konrad Elst?
Ben, j'ai l'impression que non. En Inde même, bon, le système de caste est en principe interdit, mais bon, tout le monde l'a pratique, mais de moins en moins. Enfin, on voit quand même que ça change, que ça devient moins dur. Et donc ici, on n'en voit pas grand-chose. En Hollande, le système de castes a simplement disparu. Enfin, mais là, c'est des castes qui ont déjà été à Suriname et puis sont venus en Hollande. Donc, ils ont oublié l'Inde, quoi. On me rapporte la même chose d'Afrique du Sud. En Angleterre, il y a deux groupes principaux. Donc, les hindous des villes sont modernisés et ne font plus le système des castes. Tandis que les sikhs, bon, on peut en discuter s'ils sont des hindous ou non, mais ça, c'était une autre discussion. Mais ils viennent surtout de la campagne. Et là, des habitudes traditionnelles sont encore beaucoup plus fortes. Comme par exemple, pour prendre un exemple des plus durs, les meurtres d'honneur, par exemple. Ça se fait encore parfois dans ce cercle-là.
Chez les sikhs, alors, plutôt. Oui. Alors,
effectivement... Mais ce n'est pas que ça n'existe pas parmi les hindous. C'est seulement, bon, ces hindous qui sont venus en Angleterre sont pour la plupart des gens plus bien situé.
Alors oui, Christophe, vous voulez enchaîner ?
Je voulais simplement dire qu'il y a quand même une grande modernisation en Inde même de l'hindouisme. C'est justement d'avoir, par exemple, ouvert les temples à toutes les castes, alors qu'avant, la religion elle-même était aussi, enfin, quand je parle de religion, je veux dire la pratique cultuelle, était aussi extrêmement compartimentée en fonction des castes. Chaque caste avait ses temples et il n'y avait pas de mélange. Et donc ici, ça c'est vrai qu'il y a une modernisation de l'hindouisme, c'est-à-dire une démocratisation depuis une centaine d'années, certainement.
Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas, Martin Gourvitch, en Inde même, parfois encore certains types de problèmes ? Par exemple, on l'a vu ces dernières années, là on entre encore dans un autre débat, mais une utilisation, voire une récupération politique des canons de l'hindouisme, de l'identité hindoue aussi, dans le grand jeu politique de l'Inde, mais parfois débouchant sur des tragédies quand même par ailleurs médiatisées et franchement tristes. Alors est-ce que malgré tout on ne reste pas dans quelque chose d'un petit peu ambigu ?
Oui, malheureusement la religion, la spiritualité est très étroitement liée à la vie de tous les jours en Inde, même à la vie politique. Et malheureusement, des fois, il y a des abus, des manipulations où on utilise la question religieuse, des différences doctrinales ou des religions pour justement créer des tensions qui ne sont pas du tout nécessaires. Et ça, c'est une manipulation, si on veut, de la spiritualité de la part du monde politique. Comme c'est tellement connecté, c'est difficile à les séparer. Moi, je vais penser, tout à l'heure, tu avais parlé des exemples de modes de vie qui sont peut-être en commun pour les hindous. Et je pensais aussi à ce que Christophe Viel a dit sur que les hindous, ils arrivent très bien à garder la tradition et la modernité et d'une manière très pratique. Par exemple, je pensais au végétarisme, quelque chose de traditionnel chez les hindous depuis des siècles et des millénaires. Et même dans la modernité, dans les grandes villes où ils pourraient complètement abandonner le végétarisme, on voit comme une grande partie des hindous des classes moyennes dans les villes continuent à être végétariens. Et je pourrais dire que peut-être dans toutes les religions qui existent dans le monde, le végétarisme est le plus pratiqué par les hindous dans le monde.
Oui, alors là, en ce moment, vous avez le vent en poupe, si j'ose dire, avec les scandales liés à la viande et à l'alimentation moderne. Mais alors justement, Martin Gourvitch, là, je saisis une perche. Hein. Comment devient-on hindou ? Comment est-on hindou ? Par exemple, pourrait-on être hindou à son insu ? Par exemple, est-ce que les gens qui pratiquent le yoga, simplement hygiène de vie ou peut-être pratique presque sportive, je dirais, est-ce que vous les considérez, vous, comme des hindous ?
Là, tu as touché un sujet assez controversé dans le sens que aux États-Unis, par exemple, The American Hindu Foundation a beaucoup amené ça dans leur discussion importante en disant qu'on peut pas séparer le yoga de ses racines spirituelles, de ses racines védiques et juste les transformer en quelque chose d'autre. Donc, si on veut faire quelque chose des exercices ou des relaxations, il faut l'appeler d'une autre manière. Mais il y a des formes de yoga qui sont bien sûr rattachées à des spiritualités, des traditions spécifiques. Et là, bien sûr, c'est très rapproché à l'hindouisme comme on le présente.
Christophe ?
On pourrait prendre différents exemples. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer qu'on est hindou parce qu'on est autorisé à participer à un culte ? Et on peut y participer. On ne demande jamais une croyance préalable en l'efficacité. C'est-à-dire, c'est la participation à des pratiques qui peut déjà être considérée comme une appartenance à la religion. Maintenant, beaucoup d'Occidentaux qui sont devenus hindous ont plutôt alors vécu ce qu'on appelle l'initiation qui peut être plus ou moins longue et qui alors est plutôt liée, je dirais, à des mouvements soit philosophiques, soit plutôt sectaires, shivaïtes, ou quand je dis sectaire ici, c'est sans aucune connotation occidentale du mot. Je parle plutôt de branches.
On va revenir sur cette question-là dans un instant, justement.
Des branches shivaïtes ou vishnouites, tantriques ou quoi, qui ont tout des rituels d'initiation qui marquent l'entrée dans cette voie ou dans cette branche. Donc, pour moi, oui, l'hindouisme, au sens large, reste ouverte aux Occidentaux, mais à la fois, je pense qu'on peut être chrétien et hindou. C'est un collègue à moi qui est le père Jacques Schuer, un jésuite, qui lui soutient comme on peut être chrétien et bouddhiste. Voilà.
D'accord, c'est un autre débat. On y est déjà entré dans cette émission. On y reviendra très certainement. Alors, donc à propos de choses peut-être un petit peu moins drôles, et on va revenir dans quelques instants sur tout ce qui tourne autour des sectes, évidemment. On ne va pas éluder cette question-là du tout. Mais enfin, tout à l'heure, nous parlions des implications politiques, ou en tout cas des interférences politiques. Konrad Elst, le sujet du nationalisme hindou, c'est un sujet que vous connaissez bien. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Il y a quand même régulièrement pas mal d'événements où on voit qu'à un moment donné, l'hindouisme devient un projet politique, en tout cas en Inde, c'est assez flagrant. Est-ce que c'est un véritable problème toujours aujourd'hui, ou bien est-ce que ça évolue aussi?
Pour vous ajourner, le BEP, donc le Parti populaire hindou, a été au pouvoir depuis 1998 jusqu'à 2004. Donc, la plupart des prédictions par des soi-disant spécialistes que le BJP allait jeter les musulmans dans la mer, dans l'océan Indien, et des choses comme ça ne se sont pas matérialisées du tout. Mais en même temps, ils ont été au gouvernement, mais ils n'ont rien fait, quoi. Rien de spécifiquement hindou. Ils n'ont pas changé la constitution. Ils n'ont pas, par exemple, remis les hindous réfugiés de Cachemire en Cachemire. Ils n'ont pas exercé la pression sur, par exemple, le gouvernement de Bangladesh, où des hindous sont farouchement persécutés. Donc, ils n'ont rien fait. Et ce qui en résulte, c'est que des groupes étaient déçus et se sont séparés de ce parti-là, et donc aussi avec la technologie moderne, l'Internet et tout ça, on voit donc des nouveaux formes d'organisation. Et par exemple, au Bengale, un militant du parti, à cette époque-là, gouvernemental, s'est séparé, a fondé sa propre organisation. Et donc maintenant, la plupart des actes militants qui se produisent sont faits par lui plutôt que par le mouvement dominant. Il faut dire aussi que les émeutes, les incidents, c'est beaucoup moins maintenant que dans les années 80 surtout.
Oui, on se souvient des émeutes d'Ahmedabad notamment, au Gujarat. Alors vous faisiez allusion effectivement au BJP, donc ce grand parti effectivement qui est dans le jeu politique. Mais à côté de ça, Konrad Elst, il y a quand même un certain nombre d'organisations quand même un petit peu problématiques, comme le Vishva Hindu Parishad par exemple, ou bien la fameuse RSS, donc qui est un mouvement nationaliste assez dur, qui existe d'ailleurs déjà depuis longtemps, depuis les années 20 je crois, 20 ou 30. Est-ce que ces mouvements sont un petit peu en perte de vitesse actuellement?
Idéologiquement, certainement, parce que ils ne produisent rien de visionnaire, quoi. Ils gèrent un peu leur position. Donc, en quelques États de l'Inde, ils sont au pouvoir. Mais donc, du point de vue radicalisme, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais ils n'en produisent pas beaucoup.
D'accord. Christophe Viel, sur cette question?
Non, précision. Mais ce qui est sûr, c'est que les attentats récents à à Hyderabad, sont chaque fois bien des occasions pour ces mouvements de se remettre en évidence. Hein. Donc, c'est évident que les radicalismes des uns incitent ou les actions des radicales des uns incitent les radicalismes des autres. Donc, il y a un petit peu aussi un jeu de ce point de vue-là, et on peut s'attendre à de nouveau des, peut-être, si pas des pogroms, mais des mouvements violents contre des communautés musulmanes en Inde suite aux attentats.
Ce sont les musulmans qui sont la cible des mouvements nationalistes hindous. Et est-ce que les chrétiens se retrouvent parfois un peu dans le collimateur, Konrad?
Oui, certainement. Mais donc les chrétiens ont beaucoup de pouvoir hein, vis-à-vis leur nombre. Ils possèdent beaucoup de sol, mais aussi de télévision, tout ce que vous voulez, institutions éducationnelles. Donc, ils sont assez puissants. Il y a aussi beaucoup de convertis au christianisme qui n'ont pas de nom chrétien. Donc, on ne sait pas exactement combien de chrétiens il y a vraiment. Donc, officiellement, ce n'est que 2-3%, mais on dit que c'est 7-8-9%. Mais donc, il y a eu certains incidents, mais déjà, il y a 10 ans ou quoi, avec les chrétiens, maintenant, c'est moins. Aussi avec les musulmans, c'est beaucoup moins. Même les attentats terroristes, donc où on soupçonne la main du Pakistan, c'est beaucoup moins que dans le temps. Donc, pour le moment, peut-être aussi à cause de la prospérité croissante, que les gens sont plus relaxés. Qu'il y a moins de tendance à la violence.
Martin Gourvitch, oui, sur cette question-là.
Une petite précision du côté belge, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Inde, mais du côté belge, ici en Belgique, il n'y a pas de branche de Vishwa Hindu Parishad, ni de l'RSS. Donc nous n'avons pas cette problématique-là. Et le Forum Hindou de Belgique est très clair. Nous sommes d'abord une organisation belge, européenne. Et si des organisations hindoues en Inde font des activités où il y a la violence ou les discours d'haine, nous sommes tout à fait rapides à condamner, et pas parce qu'ils sont des hindous qu'on va soutenir n'importe quel acte violent ou haineux.
Pour votre processus de reconnaissance, ça pourrait constituer un problème, un obstacle, une mauvaise réputation peut-être?
Malheureusement, et c'est une tendance qui existe dans toutes les traditions religieuses, spirituelles, il y a des éléments radicaux, des éléments extrémistes, mais je pense que souvent on exagère un petit peu en Inde. Il y a des groupes radicaux, on ne peut pas le nier, mais peut-être la vaste majorité des hindous, c'est quand même des personnes qui sont assez ouvertes justement à la liberté d'expression, aux droits de l'homme.
Martin Gourvitch, qui sont les hindous actuellement en Belgique? Vous nous disiez à peu près 20 000 personnes, mais concrètement, d'un point de vue sociologique, j'ai envie de dire, c'est qui, part vous?
Donc, il y a des communautés qui sont d'origine asiatique. Les premières hindous qui sont venus de l'Inde sont arrivés dans les années 60-70 de Gujarat. Ils se sont installés en Verse avec les affaires des diamants. Et puis après, il y a eu différentes migrations de différents partie de l'Asie, comme de l'île Maurice. Il y a quand même pas mal des immigrés qui sont venus ici. Et il y a aussi des Afghans réfugiés, des hindous qui ont dû quitter l'Afghanistan à l'époque des talibans. Ils sont d'abord été en Allemagne et puis après en Belgique, qui les a accueillis, une petite communauté à Courtrai. Et récemment, c'est beaucoup de Népalais. Il y a beaucoup de Népalais qui sont venus en tant que réfugiés politiques et économiques peut-être en même temps. Et il y a une grande communauté népalaise en Belgique aussi. Et donc, une autre chose à notre faveur, c'est que la communauté, comme j'ai dit, n'est pas très grande, donc c'est facile à plus ou moins se connecter, communiquer, dialoguer, discuter. Et c'est partagé, je dirais, 50-50, donc 50% des personnes d'origine asiatique, 50% d'origine européenne. Donc, si on gère bien notre fonctionnement, on pourrait peut-être arriver à un équilibre où il n'y a pas des sentiments que la communauté européenne domine ou que la communauté asiatique domine, mais on pourrait peut-être arriver à un équilibre entre les hindous belges, d'origine belge, et les hindous d'origine asiatique.
Est-ce que les mouvements hindous ont une politique de conversion, par exemple? Est-ce que vous faites du prosélytisme? On se souvient, alors on va parler un peu de votre mouvement, la communauté Radha Desh, donc près de d'Urbuy, hein, Martin Gourvitch. Beaucoup de gens qui ont un certain âge se souviennent dans les années 70-80 et vous défiliez dans les rues avec, peut-être que vous le faites encore d'ailleurs, avec des tambourins, etc. C'était très très coloré, je vais dire. Ça, c'est une image qu'on a tous un peu en tête. Ça vous colle un petit peu encore à la peau. Et que faites-vous? Alors, vous visez la conversion des Belges?
Je pense que les différentes communautés ils vivent leur partage avec les autres différemment. Et ce qui concerne notre organisation, le mouvement Hare Krishna, nous estimons que le partage de notre spiritualité avec les autres est très important. Bien sûr, quand ça déborde, l'enthousiasme déborde, hein, peut-être un gêne vers les autres, c'est pas bien, donc il faut les gérer, il faut que ça soit un partage avec maturité, en comprenant justement les sensibilités du public avec lesquelles on discute, on parle. Mais je pense que toute communauté spirituelle partage d'une manière ou d'une autre. Certaines, c'est peut-être une manière moins évidente, moins publique. D'autres, c'est une manière plus modeste. Mais tout le monde veut partager d'une manière ou d'une autre leur spiritualité avec les autres.
Et dans votre mouvement, on partage notamment la Bhagavad Gita, c'est ça?
Oui, on partage les textes comme la Bhagavad Gita et la Bhagavad Purana. Les Bhagavad Purana et les Upanishads, et les chants, c'est la base de notre pratique. Donc on partage beaucoup les chants, c'est pour ça qu'on chante dans la rue, on chante dans des festivals, on chante dans des concerts, on chante, on fait des séminaires où on chante pendant 2 jours et des centaines de personnes viennent. Les chants, ça devient très populaire aux États-Unis, ce qu'on appelle les Kirtan Yoga, est devenu très très populaire au niveau des gens qui cherchent la spiritualité.
Christophe Viel, est-ce que ces formes très colorées, très visibles de l'hindouisme, est-ce qu'à votre avis ça peut entrer en collision frontale avec notre culture qui est quand même un petit peu moins colorée, moins exubérante, ou bien est-ce que...
Ça je ne me prononcerai pas là-dessus, parce que bon, il y a des formes de culture très colorées dans notre culture belge, mais c'est pas plus... Je reviendrai plutôt sur le problème justement des particularismes de telles communautés comme celle des Hare Krishna. Et comme a dit Gunrad Els, le problème est si, à la suite d'une reconnaissance de l'hindouisme, on en était amené à la question de rédiger, par exemple, des manuels ou des choses qui pourraient être communiquées à des enfants, etc. Et là je pense qu'on pourrait avoir plus de problèmes, parce que si je prends un exemple, donc la communauté des Hare Krishna a produit toute une série de manuels d'hindouisme, mais tout spécialiste ou connaisseur un tant soit peu de l'hindouisme se rend compte que c'est clairement une vision sectaire, de nouveau sans note péjorative, mais c'est une interprétation bien particulière, à la fois même, je dirais, de ce texte entre guillemets universel qu'est la Bhagavad Gita, mais qui n'a en rien l'évangile des hindous. Il y a des parties de l'Inde où c'est un texte qui n'est pas du tout utilisé ou qui n'est même pas spécialement vénéré. Mais rien que cette Bhagavad Gita, la communauté Hare Krishna en a une lecture qui est celle de son gourou fondateur, qui lui-même se déclare descendant d'autres maîtres. Mais donc c'est une école de pensée qui réinterprète, je dirais, l'ensemble des formes de l'hindouisme dans sa vision, hein, qui est une vision, bhakti-védantique est un bon terme pour la définir. Je ne critique pas du tout cette vision, mais je veux simplement insister sur le problème qu'il y aurait de donner une forme d'homogénéité à qu'est-ce que l'hindouisme, hein, quand il faudra le mettre par écrit.
Oui, c'est la question qu'on se pose depuis le début. Martin Gourvitch.
C'est un défi de pouvoir produire des programmes d'études où les enfants, bien sûr, en général, les enfants en primaire, ils n'ont pas trop l'aspect théologique et doctrinal comme ça. Donc c'est plutôt des principes, vraiment des bases sur la moralité, par exemple, et l'éthique. Donc je pense que dans la Bhagavad Gita, il y a des descriptions assez universelles que pas seulement beaucoup d'hindous accepteraient, mais pratiquement toute personne convictions ou des religions différentes pourraient accepter aussi, comme la charité, la simplicité, la non-violence, la véracité, enfin, plein de principes qui sont détaillés dans la Bhagavad Gita pour être appris aux enfants, des valeurs très importantes. Et bien sûr, il faut que les histoires ou l'aspect plus théologique ou enfin des histoires basées sur certains textes sacrés soient très équilibrées, où il y a différents textes qui sont introduits dans les programmes d'études et que les professeurs soient formés à présenter un hindouisme très très large. Donc bien sûr, c'est un défi et que nous avons déjà discuté pour pouvoir l'entamer dans le futur. Et bien sûr, pour nous, c'est très important aussi, pas seulement de présenter toutes les variétés de l'hindouisme, mais aussi présenter toutes les religions dont les enfants voient dans la société belge, et aussi les principes du dialogue, qui est pour nous aussi important. Mmh. Donc, un hindouisme très large, et une connaissance des autres religions, et aussi une expérience de dialogue interreligieux, interconvictionnel. Parce que bon, la théorie, c'est une chose, mais aussi qu'il faut que les enfants, ils apprennent à visiter et à être en contact avec d'autres traditions.
Alors, il y a un mot très lourd que Christophe Viel a utilisé, le mot secte, sectaire, enfin, etc. Aujourd'hui, en Europe occidentale, notamment depuis le drame de la secte du Temple solaire, vous vous souvenez, ce mot-là est devenu un petit peu diabolique, évidemment. Martin Gourvitch, j'imagine que vous le savez mieux que nous, même peut-être. Comment allez-vous faire pour combattre cette image négative ?
D'abord, il n'a pas utilisé le mot secte, il a utilisé le mot sectaire. Donc,
oui.
Je pense que le mot sectaire, bien sûr, c'est un phénomène très universel et qu'il faut, bien sûr, être très vigilant parce que toute organisation humaine, religieuse, convictionnelle a le potentiel d'avoir des dérives, des dérapages. Donc, il faut être très vigilant pour que, justement, cet sectarisme qui peut être beaucoup plus, je veux dire, inoffensif, du moment qu'on partage une communauté, bien sûr, il y aura un aspect un peu sectaire parce qu'on pense que notre communauté nous apporte quelque chose de spécial. Donc, il y a un aspect un peu plus unique. Mais il y a des aspects sectaires qui deviennent négatifs, dangereux, violents. Donc, je pense que toute organisation religieuse, que ce soit la plus grande, la plus petite, a ces dangers-là. Et bien sûr, nous, dans le Forum Hindou de Belgique, nous faisons très attention que les organisations avec lesquelles nous dialoguons pour devenir membres ou qui sont membres soient très au point à ce niveau-là. On n'accepte pas des organisations qui ont une attitude sectaire nuisible, extrême, dangereuse, asociale, si on veut.
Nous en acceptons l'augure. Kunrat Els, est-ce que vous pensez que la synthèse entre les différentes composantes de la galaxie hindouiste, est-ce que cette synthèse est possible, selon vous?
Oui, mais on est très loin de là. Parce que on a parlé des Indiens, mais quant aux Occidentaux qui se convertissent ou qui font des pratiques hindoues sans s'appeler hindous, parce que le mot hindou aussi est un peu difficile, est lié à l'Inde, donc ça ne compte pas pour eux. Ces gens-là ont une tendance très sectaire, c'est-à-dire, et c'est pas dangereux, c'est pas violent, mais c'est bien sectaire, c'est-à-dire ils suivent un certain gourou, une tradition, et ils ne connaissent rien d'autre. Ils investissent beaucoup dans ce gourou, ils vont à l'Inde, ou quand le gourou voyage, ils vont à l'Amérique ou n'importe quoi, ils changent leur vie pour le suivre, mais ils ne savent rien de la tradition générale des Védas, des autres gourous. Donc, ce sectarisme existe à grande échelle.
Christophe Viel, sur cette question, synthèse possible?
Non, pour moi, elle n'est pas possible, mais en même temps, je pense qu'il faut changer peut-être la donne, c'est-à-dire, est-ce que une religion doit être nécessairement reconnue parce qu'elle a, une doctrine commune? Non, moi je pense que justement, ici, ce sur quoi on était d'accord, c'est qu'on se rend compte quand même que un certain nombre de pratiques communes, même si elles sont diversement interprétées, existent et qu'il peut être légitime de les reconnaître. Mais simplement, il faut voir si... parce que l'exemple ici qui a été plusieurs fois donné, oui, donc il y a des regroupements hindous, des forums hindous qui sont reconnus en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Oui, mais est-ce que ça implique les mêmes choses qu'en Belgique? C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est parce que Il faut d'abord voir ce qu'implique la reconnaissance chez nous et si elle est vraiment nécessaire dans le cas de l'hindouisme.
Oui.
C'est peut-être comme ça que je poserai plutôt les termes du problème.
En effet, et d'ailleurs si la procédure se poursuit, sûrement qu'on aura l'occasion de se retrouver autour de ce micro pour accompagner certainement ce mouvement. Alors Martin Gourvitch, beaucoup de choses certainement, mais on arrive tout doucement à la fin, donc je vais vous poser peut-être une toute dernière question. Vous attendez de la Belgique une reconnaissance sens moral, comme culte, comme vous l'avez dit, et non pas comme mouvement philosophique non confessionnel, ce qui est le cas des bouddhistes, par exemple. Alors, mais dans le fond, une question que la Belgique va vous poser, c'est qu'est-ce que la Belgique peut attendre de vous, hindou ? Qu'est-ce que vous allez apporter ? Qu'est-ce que cette reconnaissance va apporter à la société belge ?
Je pense que la communauté hindoue, ou les communautés hindoues, apportent déjà depuis un certain nombre d'années beaucoup à la Belgique. Et je pense que chaque communauté convictionnelle apporte des choses en commun, que toutes les communautés apportent à la société, des bonnes choses. Et chaque communauté apporte des choses assez particulières. Donc je pense que la communauté hindoue en Belgique pourrait apporter des choses très spécifiques. Bon, comme j'avais parlé tout à l'heure, la non-violence, régime alimentaire végétarien, c'est un apport assez spécifique.
L'esprit de Gandhi, Martin Gourvitch, est-ce que ça fait partie un peu de vos valeurs aussi ?
Oui, bien sûr, la non-violence, c'est important pour nous au niveau entre les êtres humains, avec les plantes, avec les animaux. Donc c'est un principe très important dans l'hindouisme.
Christophe Viel, quel est votre regard sur cette question ?
Moi, je dirais que ça pourrait nous apporter plus de complexité dans nos problèmes, c'est-à-dire, mais de façon positive, on devra se poser plus de questions que dans les débats entre créationnistes et non-créationnistes. On parlera aussi de recréationnistes. Et que, par exemple, dans le débat sur les médecines, on ajoutera des médecines parallèles, on ajoutera l'Ayurveda, qui est enseignée dans les universités en Inde. Et bon, qui n'est pas à proprement parler, elle ne fait pas partie de l'hindouisme, mais oui et non, parce que si on regarde les textes fondateurs de l'Ayurveda, on est de nouveau dans la même sphère culturelle, dans la même sphère intellectuelle. Et donc, voilà, peut-être que ça pourra encore amener de la matière à penser.
Un gage d'ouverture ?
Oui, je pense.
Martin ?
Je pense que les hindous peuvent apporter, comme Christophe vient de dire, des visions, des perspectives différentes sur des sujets, des sociétés, des discussions qu'on a tous les jours, comme l'euthanasie, les mariages gays, l'avortement, etc. Parce que, bon, justement, il y a peut-être des éléments, des aspects qui sont nouveaux dans les discussions, qui pourraient enrichir ou rendre les débats plus complexes, comme tu as dit, mais dans un sens positif.
Nos invités pour ce débat sur l'hindouisme étaient donc Martin Gourvitch, secrétaire général du Forum hindou de Belgique et responsable de la communication du mouvement Hare Krishna en Belgique. Nous recevions également Koenraad Elst, orientaliste flamand, spécialiste du nationalisme hindou, et enfin Christophe Viel, indologue et professeur de sanskrit à l'Université catholique de Louvain. La semaine prochaine, Et Dieu dans tout ça se fera en direct et en public depuis la Foire du Livre de Bruxelles, avec un sujet d'ailleurs assez sensible puisqu'il s'agira des relations entre l'islam et la franc-maçonnerie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur La Première, bien entendu, ou à la Foire du Livre, sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles, dimanche prochain, le 10 mars, à partir de 11h. Mais tout de suite, place au livre, voici Emmanuel Kérad et ses invités de la librairie francophone. Bon dimanche sur La Première.
Jean-Paul Eck.
Retrouvez Et Dieu dans tout ça le dimanche de 11h à midi.
La Première.